chers auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance Radio Galère 88.4, nous entamons ce soir une nouvelle émission de Mets de Résistance qui sera rediffusée demain matin de 7h à 8h et qui sera sur les podcasts de Mets de Résistance sur le site Radio Galère. Donc Mets de Résistance, c'est l'émission de toutes les résistances du passé, du présent, du futur. Elle rend à chaque fois hommage à une résistance en particulier, que ce soit celle d'un État ou celle d'un groupe d'individus ou d'un individu tout seul. Et toutes les résistances, quand elles sont menées avec des objectifs de loyauté et de justice, sont toujours bonnes à prendre et bonnes à mettre en avant. Donc c'est pour ça notamment que j'ai choisi de faire cette émission. Je parlerai ce soir donc de la politique méditerranéenne de la France. Parce que mardi dernier, le mardi 26 janvier, a eu lieu à l'initiative de l'association Euromed IHEDN, qui est une association qui du Sud, une conférence sur justement la politique française et la situation en Méditerranée orientale. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème-là ? Ben parce que en ce moment, c'est d'actualité et c'est vrai qu'avec le Covid-19, on parle beaucoup du Covid, de la situation liée au Covid. Je pense que nos auditeurs l'ont compris. À chaque fois qu'on ouvre un journal le matin, les premières pages parlent d'abord et avant tout du phénomène de la pandémie. Mais à côté de ça, le monde bouge et donc il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde et il faut s'intéresser à ce qui se passe parce que après notre sortie de la crise, il va bien falloir qu'on remonte un petit peu la pente. Tous ensemble, et il va bien falloir, la vie va continuer. Donc il est très important de parler d'autres thématiques que du Covid, et je trouvais intéressant cette intervention de Jean-François Daguzan qui a eu lieu ce 26 janvier 2021. Jean-François Daguzan est ancien directeur adjoint de la FRS, vice-président de l'Institut Choiseul, et il est membre du conseil scientifique de l'association Euromed IHEDN. C'est avant tout un chercheur en géopolitique spécialisé sur les questions moyen-orientales. Il a notamment beaucoup écrit sur les interventions militaires occidentales au Moyen-Orient, qui ont été assez quand même relativement nombreuses. Il est aussi rédacteur en chef de la revue Géoéconomie et directeur de la revue Maghreb Mashrek. Voilà, donc c'est important de parler de la Méditerranée orientale parce que on sait que avant le Covid on en parlait beaucoup parce que c'est une région qui a toujours été très secouée et dans le cadre de laquelle de nouvelles logiques voit le jour et de nouveaux mouvements géopolitiques également. Donc, je ne parlerai pas de la Libye ce soir, puisque la Libye, on sait que la Libye fait partie des États qui portent justement à attention, parce que la situation politique y est difficile. J'aurais pu aussi parler de l'Algérie, qui est sous les feux de la rampe en ce moment, parce que, du moins pour les Français, parce que il y a un spécialiste de la question méditerranéenne qui Benjamin Stora et de la question algérienne pardon Benjamin Stora qui est historien et qui connaît très bien la question des relations franco-algériennes qui vient de publier son rapport, un rapport très attendu puisque ce rapport-là essaye de mettre en avant des problématiques liées à la situation politique en Algérie et notamment aux rapports franco-algériens, des rapports qui ont évolué et qu'il convenait de mettre à plat certaines choses parce que dans ses rapports avec la France, l'Algérie n'est pas, on est les rapports entre franco-algériens du moins ne sont pas toujours très clairs et il y a certaines polémiques qui n'ont pas encore été éclaircie. On en a vraiment besoin d'élaguer tout ça et de partir sur de nouvelles bases. Donc le rapport Benjamin Stora fera d'ailleurs l'objet entre nous dans une prochaine émission d'un exposé. On essaiera de parler, d'évoquer les principales idées du rapport Stora et d'évoquer cette question algérienne. Alors malheureusement, en ce moment, comme il y a le Covid et le confinement, je ne peux pas avoir autant d'invités que je voudrais. Donc pour cette première émission sur les relations franco-algériennes, je parlerai un peu toute seule et puis j'essaierai plus tard, lorsque ce sera possible, d'avoir des invités, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses intéressantes à dire sur la question des rapports franco-algériens. Pour en revenir à Jean-François Daguzan, qui lui a fait une conférence sur la situation en Méditerranée orientale et sur la politique menée par la France dans cet endroit du monde, Jean-François Daguzan, je disais, fait aussi partie de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Voilà, c'est ce que signifie le sigle FRS. Il est ancien directeur adjoint de la FRS, donc il est spécialisé sur les questions géopolitique. Donc il a un petit peu expliqué ce mardi 26 quelles avaient été les priorités des différents présidents français. Donc il a commencé par Nicolas Sarkozy qui innove, parce que avant lui, depuis les années 90, la France était dans une démarche d'intermédiaire coopératif avec les pays sud-méditerranéens. Il s'est appliqué dans un premier temps, Nicolas Sarkozy, à promouvoir un projet d'union méditerranéenne qui est devenu l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, un projet qui n'évolue pas beaucoup, dont le siège de l'UPM est à Barcelone. Et il y a quand même des structures qui se sont créées sur lesquelles on pourrait rebondir, mais pour l'instant, je le redirai tout à l'heure, l'UPM n'a pas beaucoup évolué. Moi, personnellement, mon idée, c'est que on fasse de l'UPM une vraie union méditerranéenne au même titre que l'Union européenne, qui fonctionnerait de la même manière, mais avec ses spécificités liées à la configuration des pays qui en seraient membres, qui est très différente des pays européens, mais liées aussi à des économies très différentes. Et je pense qu'il est indispensable qu'il y ait une union méditerranéenne qui permettrait d'organiser de manière différente la coopération et la co-construction entre les deux rives. Justement, cette idée de deux rives, elle a été explorée notamment par le président Emmanuel Macron, en juin 2019, organise le sommet des deux rives. Enfin, du moins, c'est à son initiative. Donc, une initiative qui concernait les riverains du bassin occidental et ceux du bassin méditerranéen. Et ce premier sommet des deux rives, qui a eu lieu en juin 2019, évoquait surtout les relations entre les sociétés civiles et portait notamment sur la question culturelle. Donc, c'est intéressant. C'est un premier tout petit pas, mais c'est encore, bien entendu, très insuffisant. Il y a beaucoup à faire sur le plan économique pour aligner les économies des pays du sud de l'Europe avec celles du nord de la Méditerranée, avec celles de l'autre rive, celles des pays du pourtour méditerranéen, et donc des pays africains, des pays du Moyen-Orient. Sur le plan économique, il y a notamment, je pense, des innovations à faire sur le plan des politiques monétaires et sur le plan des échanges économiques, afin que ces échanges économiques, qui pourraient être fructueux, puissent enfin voir le jour sous l'auspice d'une organisation qui serait un petit peu plus reconnue. Alors ça a été beaucoup négligé au fil des années, alors que normalement, on aurait dû déjà beaucoup plus construire cette union économique avec la Méditerranée. Alors, bien entendu, elle ne peut pas se calquer exactement sur le modèle européen. D'ailleurs, le modèle européen est critiqué par certains. Donc, l'euro, l'intégration monétaire n'est pas toujours acceptée par tous. Elle peut elle pourrait s'améliorer, on va dire, si elle permettait aux pays du sud de l'Europe d'avoir peut-être leur propre parité, tout en continuant à faire partie de l'Union européenne, de façon à ce que, à ce que leur économie fonctionne mieux. Alors que pour certaines économies des pays d'Europe du Sud sont peut-être davantage proches de celles du Maghreb, voire du Moyen-Orient, que de d'autres des pays que celles des pays d'Europe du Nord, de certains pays d'Europe du Nord du moins. Donc je pense qu'il y a beaucoup, il y a une remise en question à faire là-dessus qu'on n'est pas encore prêt à faire. Et je pense que pendant la dernière décennie et même les 20 années qui précèdent 2021, on a beaucoup négligé tout ça alors qu'on aurait dû déjà commencer à faire quelque chose. Moi, je me souviens des rencontres économiques méditerranéennes qui avaient lieu à Marseille en 2015-2016. C'était très intéressant. Il y avait beaucoup d'acteurs économiques qui venaient. Il y avait aussi des politiques qui émettaient tous des idées. J'ai constaté à cette occasion-là qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs très innovants qui étaient de nationalité issue de pays de l'outre Méditerranée, c'est-à-dire de l'autre rive. Il y a une richesse incontestable avec des gens qui correspondent vraiment au modèle de l'entrepreneur innovant et une très très grande envie d'évoluer. Donc ce serait dommage que qu'il n'y ait pas davantage de relations entre la société civile et les entreprises ainsi que les États. Les institutions, que ce soit les collectivités territoriales ou les États, à ce sujet. Lorsque Emmanuel Macron a organisé le sommet des deux rives, effectivement, il a beaucoup parlé de la société civile, mais il a très peu évoqué la question économique. Il a surtout évoqué la question culturelle. Je pense que c'était par tact et par défaut, parce que actuellement, c'est d'abord les relations économiques à proprement parler sont très peu développées, sauf bien entendu à savoir des initiatives ponctuelles entre entreprises, entre collectivités territoriales et entreprises de l'autre côté de la Méditerranée. Ou alors il y a aussi des initiatives qui émanent principalement des entreprises avec, on va en parler, des délocalisations, des investissements au sein des pays concernés. Mais souvent, le modèle, si on se fonde uniquement sur le modèle entrepreneurial et sur l'initiative des entreprises elles seules, on remarque que les actions sont très peu encadrées. Il faut que les actions soient davantage encadrées à la fois par les États et ou par les collectivités locales, ou quand une collectivité locale porte toute seule, c'est parfois insuffisant. Il faudrait que l'État français puisse être au courant et se constituer en partenaire également pour accompagner la collectivité territoriale, puisque l'enjeu est crucial sur le plan diplomatique et géopolitique. Il en va de la place de la France en Méditerranée et j'allais même dire en Afrique tout entière. Une place qui aujourd'hui est plus ou moins remise en question par le fait que d'autres grandes puissances s'intéressent beaucoup à la Méditerranée à l'autre rive, notamment le Machrek et voire même l'Afrique tout entière. Je pense à la Turquie, je pense à la Russie, je pense à la Chine, sachant que les États-Unis, eux, de leur côté, alors c'est l'effet Donald Trump, bien entendu, qui pratiquait une politique de renfermement, enfin une politique de protectionnisme, mais les États-Unis n'interviennent pas beaucoup en Afrique. C'est lié donc à la période trumpienne, et je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose que ça laisse toute sa place à l'initiative des pays d'Europe du Sud. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les pays d'Europe du Sud n'ont pas l'air de vouloir pour l'instant saisir cette opportunité-là. Et donc, alors même qu'ils disposent d'une institution qui existe depuis déjà un certain temps, depuis 2007, qui est l'Union pour la Méditerranée. Là-dessus, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un frein qui a été mis, alors que justement, davantage de relations économiques entre l'Europe du Sud et la Méditerranée pourraient résoudre le problème de certains États d'Europe du Sud qui sont en gabegie financière et économique. Je pense à la Grèce, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, au Portugal, et puis je pense aussi à la France, et notamment au Sud français, qui n'est pas toujours aussi développé qu'il pourrait l'être. Et je pense à la région PACA notamment. Ce qui n'est pas, je pense à notamment à la ville de Marseille. Sans vouloir stigmatiser la ville de Marseille pourrait beaucoup profiter de l'opportunité que pourrait lui laisser l'opportunité d'être à la tête des initiatives des relations franco-méditerranéennes sur tous les plans. Parce que sur le plan culturel, il y a beaucoup de choses qui se font avec la société civile, mais aussi sur le plan économique. Et là-dessus, ça pêche encore un peu, même si, bien entendu, lors de ces rencontres économiques méditerranéennes qui avaient été organisées à l'initiative du Conseil régional, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient très très envie de faire des choses, qui avaient beaucoup de ponts entre la France et la Méditerranée, et la France et le Maghreb notamment, parce que avec des actions en commun d'un côté et l'autre des deux rives. Mais ça n'est pas encore suffisamment institutionnalisé. Donc voilà pour l'UPM. Alors cette UPM, on l'a quand même laissé un petit peu de côté. Alors pour en revenir aux priorités des différents présidents français, Nicolas Sarkozy a soutenu en 2011 une opération en Libye, et le président François Hollande, élu en 2012, s'est peu intéressé à la Méditerranée, mais il assumera l'évolution esquissée à la fois par la création de l'UPM les priorités précédentes, c'est-à-dire la démarche d'intermédiaire coopératif entre la France et les pays sud-méditerranéens, sans qu'il y ait beaucoup de choses qui soient faites dans ce sens, mais il a gardé cette ligne. Et enfin, le président Emmanuel Macron, qui est arrivé en 2017, au début, n'avait pas énormément parlé de la politique franco-méditerranéenne. Il y avait eu quelques phrases qui avaient été dites, notamment sur le cas de l'Algérie, mais c'était juste des phrases. Et puis après, il y a eu ce sommet des deux rives de juin 2019, où il esquisse déjà un chemin, si ténu soit-il, puisqu'il ne porte, je le rappelle, que sur des initiatives à caractère culturel, un chemin qui consiste à évoquer la nécessité de mettre en avant les initiatives de la société civile. Alors, justement, moi je dis, il faut continuer à construire tout ça, faut raccrocher avec tout ça, avec l'Union pour la Méditerranée, en bougeant un peu les autres pays, l'Italie, l'Espagne, qui est d'ailleurs le siège de l'UPM, et puis la Grèce aussi, et tout ça, tous ces pays-là sont animés par des problématiques souvent très similaires. La France pourrait être le moteur d'une UPM qui fonctionnerait bien. Et on pourrait d'ailleurs, je pense, lui changer son nom et l'appeler Union méditerranéenne pour bien montrer qu'on veut et qu'elle est la même envergure un jour que l'Union européenne, du moins qu'elle soit aussi importante pour plusieurs raisons, pour le développement économique, pour la coopération internationale, mais aussi pour l'entente entre les peuples. Et je pense notamment à l'idée de paix dans le monde, puisque actuellement, ce qui anime l'Afrique du Nord, c'est la volonté de certains États de faire un peu leurs lois. Et il y a une division, je pense à la Libye. La Libye qui est elle-même qui est divisée et qui chacun au sein de laquelle chacun des camps est tiré par des grandes puissances différentes. Donc ça peut être source de conflits internationaux. Donc il faut éviter ces conflits internationaux. Ahmed Résistance, on prône bien entendu la paix dans le monde, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu pas mal d'émissions ces derniers jours, ces dernières semaines, sur la Société des Nations et sur le personnage de Léon Bourgeois qui était fêté jusqu'ici en 2020 à Châlons-Champagne, puisque c'était sa ville, la ville où il résidait, et qui avait eu le prix Nobel de la paix parce qu'il avait été à l'initiative des conférences de la paix. Il avait représenté la France aux conférences de la paix de La Haye en 1799 et en 1907, et puis il a été un des principaux personnages à l'initiative de la Société des Nations qui a été créée en 1920 suite au traité de Versailles, à ces différents traités de paix qui se sont signés entre les différents pays belligérants lors de la guerre 14-18. Et donc voilà, donc on est pour la paix dans le monde. Donc je pense vraiment que la France a un rôle très important à jouer. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est important de restaurer la place de la France dans les relations internationales. Et ses relations avec l'Afrique du Nord, notamment, sont fondamentales pour que la France conserve cette place-là et qu'elle ne se la fasse pas prendre par d'autres. Elle a une place qui est privilégiée de par un passé commun, un passé qui n'a pas toujours été très clair et qui n'a pas toujours été rose. Je pense à la colonisation. Donc des rapports comme le rapport Benjamin Stora sont là pour justement tenter d'esquisser des solutions pour effacer les dissensions ou les rancœurs qu'il y a pu y avoir entre la France et l'Algérie, par exemple, en ce qui concerne le rapport Stora. Mais ces rapports-là restent quand même des rapports privilégiés. On se souvient qu'en 1939-1945, sans l'Afrique du Nord, la France n'aurait jamais pu se sortir d'une autre forme de colonisation qui était, bien entendu, la domination de l'Allemagne sur la France et l'occupation. Si on lit les mémoires de guerre du général de Gaulle, lorsqu'il parle des premières années de la guerre, 1939-1942, on voit bien comment il raconte à quel point l'Afrique du Nord était importante, puisqu'il a été à Londres, certes, mais il a été beaucoup en Afrique du Nord, voire au Moyen-Orient. Et la sortie de la guerre s'est faite par là-bas, par Londres, par le Nord, mais aussi par le Sud. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc là-dessus, la France a vraiment a développé cet héritage de façon à en faire quelque chose de bien. Puisque finalement, ça serait montrer qu'on peut créer des relations internationales sur un paradigme de coopération et non pas uniquement sur un paradigme lié à la guerre. Voilà. Donc, j'oubliais qu'en octobre 2017, dans sa revue stratégique, Emmanuel Macron avait développé les fragilités et vulnérabilités de cet espace méditerranéen et les menaces auxquelles il était soumis. L'aspect maritime y était beaucoup mis en avant. En août 2020, au forum de Lugano, le président de la République fait une déclaration dans laquelle s'esquisse davantage l'idée d'une politique de la France en Méditerranée à proprement parler. Donc on va en parler maintenant. Il y a plusieurs points. D'abord, il y a le phénomène politico-militaire. Donc sur le plan politico-militaire, donc il a reparlé bien entendu de la pandémie, des dangers qui se posaient encore aujourd'hui, il faut pas l'oublier, en Afrique du Nord, en Méditerranée orientale, les crises migratoires, la crise sécuritaire, la crise de l'environnement, les rivalités entre clans. Il évoque l'idée, la nécessité d'une réorganisation de tout cet espace de la Méditerranée orientale. Voilà. Et il nous dit qu'aujourd'hui, on est face à une nouvelle donnée, parce que jusqu'ici, c'était l'OTAN qui avait structuré, grâce à la présence américaine, l'espace Méditerranée orientale, et qu'aujourd'hui, cette présence américaine s'est fortement retirée et que donc, une nouvelle structuration est à construire. Donc je rappelle que la structuration par l'OTAN et par les États-Unis d'Amérique est une structuration qui revêtait une forme avant tout belligérante, c'est-à-dire on réglait les conflits par l'intervention militaire. Ce que Emmanuel Macron propose, c'est une autre forme de structuration qui, elle, reposerait sur des bases plus solides et plus pérennes, qui seraient moins liées à la conjoncture, mais qui seraient des perspectives de long terme. Donc c'est avant tout de la coopération économique et bien entendu politique et culturelle. Voilà. Donc forcément, bien entendu, lorsque le droit international est bafoué et qu'il y a des peuples qui souffrent, c'est normal que les États puissent intervenir. Et pour ça, on a une organisation qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Je proposais de créer à l'Organisation des Nations Unies une autre forme d'organisation qui lui serait parallèle, qui serait l'Organisation des États indépendants et autonomes, qui permettrait de remettre les choses à plat et peut-être de créer un nouvel alignement économique et monétaire avec les pays du Sud, dont feraient partie, bien entendu, les pays de la Méditerranée orientale et les pays d'Afrique d'Afrique du Nord. Ça pourrait être intéressant que tous les pays concernés, avec les pays d'Europe du Sud, puissent se réunir pour évoquer leurs problématiques à l'initiative de la société civile, parce qu'il faudrait mettre en avant les différentes associations qui sont multiples, qui sont européennes ou qui françaises notamment, et qui agissent au jour le jour pour créer des actions qui sont pérennes, mais qui sont aussi parfois ponctuelles lorsque le cas le nécessite. Je pense notamment à la situation du Yémen, qui est catastrophique, puisque en plus de la pandémie, le Yémen est complètement... en plus de la pandémie et des menaces de ses voisins proches, le Yémen fait partie des pays qui sont très proches de la Corne de l'Afrique, qui sont susceptibles d'être touchés par la famine cet été, l'été qui va venir. Donc là-dessus, je pense que les États, ça pourrait d'ailleurs être une première priorité qui pourrait à terme aboutir à la création d'une organisation des États indépendants et autonomes, que d'aider tous ces pays-là à nourrir leur population. Comment on pourrait faire ? On pourrait tout simplement... être à l'initiative d'une opération qui permettrait de mettre en place de nouvelles réserves de céréales en faisant intervenir, pourquoi pas, nos militaires. Donc pour ça, la France ne pourrait pas se débrouiller toute seule. Il faudrait une coalition internationale. Là, peut-être que l'ONU pourrait jouer un rôle qui permettrait d'aller installer des greniers à blé dans ces pays de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique, mais aussi en Afrique de l'Ouest, qui sont des pays très secoués, animés par des milices armées, qui empêchent les associations humanitaires de jouer leur rôle. Et donc, dans ce cadre-là, il faudrait peut-être faire intervenir la puissance militaire avec une coalition internationale qui sera à la tête de cette opération militaire pour contrer ces milices. Mais ça... c'est souvent facile à dire sur le papier ou en parlant à une émission de radio, mais c'est vrai que c'est pas évident à mener à bien. Mais cela dit, je pense qu'on se doit tous d'y penser à l'avance, puisque le temps avance à vitesse grand V et les mois de juillet-août sont très proches finalement. Voilà, bon, j'en parle à cette occasion, c'est un exemple, mais cela dit, si on veut mettre en place des actions à long terme, je pense que je le redis, la société civile, il faut absolument encadrer la société civile au sens positif du terme, c'est-à-dire non pas en la réglementant ou en voulant commander ses actions, mais en l'écoutant et en lui donnant une assise à la fois juridique, militaire et politique. C'est-à-dire l'ascendant des États, pour que les actions de la société civile puissent être plus concertées et correspondre à une véritable stratégie. C'est pour ça que l'alliance de la société civile et des États est fondamentale, je pense. Les États, je pense aussi aux collectivités locales, bien sûr, des institutions publiques, parce que tant qu'on a les associations d'un côté et puis les États de l'autre, on voit bien que ça ne fonctionne pas, que finalement les États finissent par intervenir uniquement pour faire des interventions armées ponctuelles et que ça ne règle jamais la situation, qu'au contraire, c'est souvent source de conflits internationaux. Quand je parle d'organisation des États indépendants et autonomes, je pense surtout à une coopération sur le plan à la fois humanitaire, environnemental et économique, et voire monétaire. Je le disais tout à l'heure, on l'a beaucoup exposé dans mes émissions de radio. On sait ce que c'est quand on écoute les podcasts que le nouvel alignement monétaire, enfin du moins de cette idée-là, c'est une idée. En tout cas, souvent, une idée qui se justifie parce que pour certains États comme la Grèce, par exemple, sont dans le même état de développement parfois que certains autres pays d'Afrique du Nord. Donc finalement, on ne voit pas pourquoi on ne comparerait pas ces pays-là et pourquoi on n'essaierait pas de faire une coopération qui unisse les pays qui ont une configuration similaire. Donc en fait des idées sont lancées. L'organisation des États indépendants et autonomes pourrait être une organisation qui pourrait être lancée à l'initiative d'une association comme par exemple l'Alliance française, qui est une association qui est importante parce qu'elle existe un peu partout dans le monde et puis elle existe depuis très longtemps, elle est pérenne, et cette association pourrait faire l'objet, par exemple, pourrait être la première à bénéficier d'une procédure de délégation associative par l'État français, et ça créerait une première. Ça permettrait de faire d'une pierre deux coups, ça permettrait à la fois d'organiser véritablement une rencontre des États indépendants et autonomes à l'initiative de la France via les actions de l'Alliance française, des actions bien ciblées, et en même temps ça permettrait de créer un précédent et de enfin susciter une véritable coopération entre le monde associatif, donc la société civile et l'État français, qui soit presque institutionnalisée. Parce que la délégation associative, c'est ni plus ni moins que des prérogatives de puissance publique qui sont déléguées pour un temps à une association, moyennant les subventions adéquates. Or, souvent, les associatifs qui sont sur le terrain depuis très longtemps connaissent beaucoup mieux les choses que l'État lui-même, que les institutions étatiques elles-mêmes, parce qu'elles sont sur le terrain depuis très longtemps. Elles connaissent très bien les problématiques. Donc, pourquoi ne pas leur déléguer déléguer certaines missions de service public? Ça, je pense que c'est quelque chose à explorer, que ça peut être quelque chose de très intéressant. On va mettre une petite musique. On va choisir une musique libanaise, parce que en ce moment, le Liban est sous les feux de la rampe. On en reparlera tout à l'heure avec l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais mettre une chanson d'une femme, une chanteuse qui s'appelle Yara.
Hissettim vurbak bil aman. لون الدنيا أحلى صار عم عيش نهار بألف نهار عم يضحك قلبي مثل ولاد صغار صرت المشوار وعليك بغار حسيت بقربك بالأمان صرت بزمان غير اللي كان حسيت بقربك بالأمان صرت بزمان غير اللي كان عم أعشق أنا عم بخلق من أول وجديد عاسمك
C'était Ma Baref de la chanteuse Yara. Je vais parler un petit peu de la chanteuse Yara. C'est une chanteuse libanaise qui est célèbre dans le monde arabe. Elle a commencé sa carrière en 1999. Elle est très célèbre dans le monde arabo-musulman. Donc, mais c'est une chanteuse qui est de confession chrétienne. Voilà, donc je laisse nos auditeurs méditer sur ce titre. C'est pas souvent qu'on met des chansons de la musique populaire libanaise. Et je vais continuer mon émission à parler de la politique française en Méditerranée orientale. Je voulais simplement dire que le Liban a été drôlement touché ces derniers temps. Il y a eu le Covid, il y a eu l'explosion. C'est aussi un pays qui est un petit peu déchiré parce que c'est un pays où il y a beaucoup de troubles sur le plan politique et géopolitique. C'est un pays d'ailleurs peu l'ignore, où la Constitution laisse la place à chaque communauté religieuse. C'est-à-dire que les communautés religieuses sont ancrées dans la Constitution. Par exemple, le Premier ministre est forcément toujours chrétien. le président de la République, chaque institution du pouvoir est menée par une confession religieuse différente. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, c'est une solution qui a émergé, qui n'aurait pas pu se mettre en place dans d'autres pays de la Méditerranée orientale, pour la bonne raison que beaucoup de pays de la Méditerranée orientale existent depuis longtemps. Et d'ailleurs, ils sont le berceau de notre civilisation. On pense à la civilisation mésopotamienne. Ça, c'est très important. C'est très important de le dire. Parce que souvent on l'oublie, mais le Liban ne fait pas du tout partie de ces pays-là, parce que le Liban est une entité qui a été créée de manière plus ou moins artificielle, après les différentes guerres qui ont animé notre continent européen et la partie moyenne-orientale. Et notamment, je parlais du traité de Versailles et des traités de paix de 1920. C'est l'époque où le Royaume-Uni, à l'époque où les États-Unis ne menaient pas une politique suprémaciste sur le monde, ces deux pays, le Royaume-Uni et la France, se sont partagés... Ils se sont partagés les territoires du Moyen-Orient. Donc le Liban fait partie d'une autre entité qui était autrefois la Grande Palestine ou la Grande Syrie. Ça dépend. Il y a des gens qui l'appellent Grande Palestine, d'autres qui l'appellent la Grande Syrie. Ce grand territoire très large a été découpé en plusieurs morceaux. On a créé la Palestine à cette époque-là, dans les années 20. On a créé on a créé la Palestine, on a créé la Syrie, le Liban et puis l'actuelle Jordanie. Donc ces quatre entités-là faisaient partie d'un territoire commun autrefois. Donc c'est pour ça que les entités nationales d'aujourd'hui ont autant de mal à s'y retrouver et à fonctionner correctement sur le plan politique. Mais dans ces entités, au sein de ces entités-là, on peut jouer avec les constitutions, dire qu'au Parlement sont représentées toutes les confessions religieuses, que le président de la République libanaise ou que le Premier ministre libanais doit être soit chrétien, soit musulman, soit juif, alors attention, parce qu'en plus... il peut être musulman. Il y a plusieurs façons d'être musulman en plus. Donc tout ça, ça paraît un peu compliqué, mais ça a été possible sur des territoires qui sont récents et des États qui sont très récents, au sein desquels le sentiment nationaliste a eu beaucoup de mal à se greffer. Ce qui fait que ça explique des cas comme par exemple la Syrie. La Syrie est un État qui est déchiré par les clans. Comme beaucoup d'États africains, d'ailleurs, la colonisation et les frontières artificielles, ça amène à ce genre de situation où le pays est déchiré entre plusieurs factions sur le modèle des guerres que se menaient autrefois les clans, je veux dire les tribus. Donc au Liban, ça fonctionne de cette façon-là, ça peut fonctionner, mais c'est encore artificiel. Je pense que ces pays-là, pour régler la situation de ces pays-là, il faudrait absolument mettre en place, comme le fait Benjamin Stora avec son rapport pour les relations entre la France et l'Algérie, il faudrait mettre en place des supports théoriques qui permettraient de mener à bien un débat d'idées, une série d'accords de coopération entre différentes factions. Parce que les tribus sont encore là, au-delà des conflits religieux qui se déchirent les gens entre eux. Déjà, il y a et qui sont récentes, il y a un déchirement qui existe toujours entre clans, entre anciennes tribus ancestrales. Donc celles-ci sont cette configuration-là est une configuration qui est anti-islamique, c'est-à-dire qu'elle existait déjà avant la naissance de l'islam. Et elles sont importantes parce qu'elles existent toujours. Par exemple, le président de Syrie, Bachar el-Assad, fait partie d'une tribu bien particulière qui est à la tête du pouvoir syrien. Voilà. Et lui s'oppose, et pourrait s'opposer d'autres factions, d'autres tribus ancestrales, ce qui fait que le pouvoir est souvent fragile. Ou alors, s'il veut se maintenir, il est obligé, ça a été le cas notamment avec la dynastie el-Assad en Syrie, il ne peut se maintenir que par la force. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, c'est aussi compliqué de régler la situation. Le Liban, c'est pareil. Il y a différentes communautés. Il y a des musulmans chiites, des musulmans sunnites. Il y a des maronites, ce qui sont les chrétiens d'Orient. Il y a aussi des juifs. Donc, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile de régler la situation politique si on considère les divisions entre religions. Alors on a trouvé la solution de les inscrire dans la Constitution, mais ce n'est qu'un règlement provisoire, et puis qui d'ailleurs n'est pas laïque. Alors après, on peut pas imposer la laïcité partout, on peut pas faire de l'anthropocentrisme tout le temps. Mais cela dit, je pense qu'il faut quand même revenir à l'histoire de ces territoires-là. Quand on entend parler, des relations entre un pays comme le Liban et un pays comme l'Iran, qui est un pays qui a toujours été, qui est l'ancienne Perse, qui est un pays qui existe depuis très longtemps, qui a une histoire et qui attire sa légitimité, cette longévité historique, on est sur un rapport d'inégalité, alors qu'on est sur un territoire qui est similaire, sur un rapport d'inégalité dont peuvent se jouer ceux qui veulent semer la discorde pour profiter, par exemple, d'une situation qui serait privilégiée dans ces régions du monde. C'est très important de penser à tout ça, parce que je crois que quand on ne s'intéresse pas à l'histoire réelle des territoires à long terme, on fait une erreur. On n'est jamais dans le vrai. Et donc on doit aussi s'intéresser, en dehors des conflits religieux à proprement parler, qui, je pense, sont superficiels parce qu'ils datent d'une période historique très récente, on doit s'intéresser beaucoup plus récente, du moins, si on considère la naissance de l'islam, que l'existence de tribus ancestrales. Or, souvent, et ça c'est pareil en Afrique, c'est pour ça qu'en Afrique on n'arrive pas à avoir des situations politiques stables, même aujourd'hui dans la lutte contre les djihadistes, les ethnies se jouent de la présence des djihadistes pour se maintenir dans une place privilégiée sur le plan des rapports de pouvoir. C'est pour ça que je pense, c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle on n'arrive pas à éradiquer le djihadisme de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Eh bien, dans les pays de la Méditerranée orientale, la situation est très similaire. Pourtant, ce sont des territoires qui regorgent d'historiens amoureux de leur pays, qui aiment beaucoup leur histoire. Donc j'espère qu'un jour ça va s'arranger. Donc voilà, c'est pour parler un petit peu de la situation du Liban et de la manière dont on allait pouvoir s'en sortir un jour. Si on veut vraiment arriver à s'en sortir, c'est pas en voulant à tout prix plaquer de la laïcité pour régler le problème. C'est vraiment en s'intéressant à l'histoire de ces territoires et aux différents conflits qui ont opposé les différentes ethnies et les peuples entre eux, même si parmi eux il y en a qui sont minoritaires, de façon à ce qu'il y ait une entente. Donc il faut remonter la chronologie et l'histoire depuis il y a très longtemps. Voilà. Donc j'en parle parce que dans son discours pour le forum de Lugano, Emmanuel Macron, qui s'est d'ailleurs déplacé au Liban lorsqu'il y a eu l'explosion à Beyrouth, et qui a fait de ses relations franco-libanaises un de ses une de ses priorités. Là-bas, il en a le président Emmanuel Macron, pardon, a parlé, bien entendu, du Liban. Il a parlé des deux théâtres de conflit que sont la Syrie et la Libye, qui sont animés par une situation de guerre sans fin. Et qui sont le théâtre de réémergence de deux grandes puissances régionales, la Russie et la Turquie, je le disais tout à l'heure, qui ont chacune leur agenda différent. Il a parlé des mouvements terroristes qui continuent à prospérer. Et il a parlé de la situation au Liban. Et il a dit que dans cette région du Moyen-Orient, l'Occident avait un rôle à conduire, l'Europe avait un rôle à conduire, et qu'il y avait un modèle de développement et d'équilibre politique qui était très important à mettre en place pour la Méditerranée et le Proche-Orient. Mais il n'a pas négligé la question des histoires différentes en Syrie comme en Libye. Et donc la priorité d'Emmanuel Macron par rapport à cet enjeu politique, c'est de faire émerger des souverainetés nationales dans un pluralisme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un pluralisme qui est ethnique, qui est religieux et qui est politique. Et je pense que le pluralisme ethnique est la priorité à gérer si on veut pouvoir régler la question du religieux et du politique. Voilà. Et Dieu sait si cette dimension-là, cette dimension ethnique est difficile parce qu'elle remonte à très loin dans l'histoire. Donc il y a donc des rivalités claniques qu'on doit régler. Pourquoi pas mettre en place dans une constitution, je pense notamment au cas syrien, d'un de ces pays, comme on l'a fait pour les religions au Liban, parce qu'on pouvait se le permettre au Liban, de par la configuration du pays, etc. Eh bien, pourquoi ne pas en Syrie inscrire les différentes ethnies dans la constitution ? Ça pourrait être une solution. Donc ça, c'est pour la première priorité du président Emmanuel Macron en matière de politique franco-française au Moyen-Orient, en Méditerranée orientale. C'est le phénomène politico-militaire. Donc voilà. Pour ce qui est de la deuxième dimension qu'il a évoquée dans son discours, je rappelle, c'était le discours du Forum de Lugano Moyen-Orient-Méditerranée, Forum Moyen-Orient-Méditerranée, qui a eu lieu le 29 août 2020. La deuxième dimension, c'est le fait religieux et démographique. Un fait religieux et démographique qu'on connaît, puisqu'il est venu il a des répercussions jusqu'à chez nous. Et ce fait religieux, réguler ce phénomène religieux dépend de notre capacité collective à reconnaître toutes les religions et à les faire cohabiter dans cet espace plus large qui n'est pas un seul pays, mais cette région de la Méditerranée, du Proche et du Moyen-Orient. Donc il a parlé de capacité collective, donc il évoque bien ici quand même la naissance d'un paradigme de coopération. Et puis il a évoqué le fait démographique en rappelant que ce fait démographique était quelque chose de positif pour ce qui est des relations à dimension éducative, culturelle et économique. Et il a parlé, bien entendu, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne l'organisation des États indépendants et autonomes, qui est mon idée, il a parlé de la société civile et de l'importance qu'elle peut y jouer. Et justement, chacun des États et chacun des gouvernements a intérêt à promouvoir sa société civile et à la mettre en avant. Ça, c'est très important. Et la société civile peut entraîner, ça, ce sont les mots du président Emmanuel Macron, elle peut entraîner son gouvernement à trouver des solutions nouvelles. Et c'est dans ce cadre-là qu'il inscrit le sommet des deux rives. Alors, quels sont exactement les objectifs de la France, les stratégies que développe la France dans ce domaine-là ? Peut-être que par tact, on a commencé par parler de relations culturelles de relations à caractère notamment culturel. C'est un fait. Et que dans le but, plus tard, puisqu'il a cité le mot économique, de mener à bien des relations économiques à proprement parler. Et pourquoi pas, dans ce cadre-là, utiliser l'institution qu'est l'Union pour la Méditerranée, qu'on pourrait transformer un jour, je le souhaite, en Union méditerranéenne, et pourquoi pas créer une organisation des États indépendants et autonomes. Troisième dimension évoquée par le président Emmanuel Macron lors de ce forum de Lugano, par ce discours qui a été lu, je rappelle qu'il n'était pas présent, il n'avait pas pu être présent ce jour-là, le fait énergétique. Il a rappelé que la Méditerranée était en train de redevenir une route des transits, notamment énergétiques, ce qui d'ailleurs est à la source des tensions en Méditerranée orientale. Avec des routes et des forages de pétrole et de gaz. Alors, bien entendu, on sait que ça pose des problèmes pour la délimitation des souverainetés, notamment dans le cadre des zones économiques exclusives. Chacun veut étendre son territoire de façon à pouvoir bénéficier de la zone économique exclusive de plusieurs kilomètres qui est la continuation du territoire terrestre et dans lequel l'État qui a la souveraineté, qui dispose de la souveraineté, a l'exclusivité sur le plan économique et sur le plan notamment de l'extraction de nouvelles d'énergie liée notamment aux hydrocarbures. Donc en plus, il y a de nouvelles opportunités énergétiques puisque l'Égypte vient découvrir d'importants gisements. Beaucoup d'autres pays aussi. Bon, il y a Israël, puis il y a d'autres États. Donc, comment la question d'Emmanuel Macron là-dessus, c'était comment concilier l'exploitation de cette énergie avec la paix d'abord, et puis ensuite avec la protection environnementale, puisque bien entendu, ces hydrocarbures pourraient un jour, et on le souhaite, parce que c'est le but, devenir tomber en désuétude au profit d'énergies renouvelables et d'énergies plus propres. Il y a aussi cette question-là à régler. Et enfin, la quatrième dimension, c'était le fait politique, puisque il a évoqué, bien entendu, le fait le retrait américain et otanien, et donc le fait que suite à ce retrait, il y a d'autres États, d'autres grandes puissances qui veulent prendre le relais. Donc, bien entendu, il a cité la Turquie, il y a aussi la Russie, puis il y a la Chine. Donc, la Chine a un projet, qui est le projet Route de la Soie, que moi-même, j'ai développé à plusieurs reprises, et Emmanuel Macron n'en a pas du tout parlé dans son discours de Lugano. J'en parle parce que j'ai fait plusieurs émissions dessus. Il a été mis un peu de côté actuellement dans le cadre de la pandémie, mais effectivement, le projet Route de la Soie est un projet qui concernait beaucoup la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient en général, avec beaucoup d'infrastructures, notamment de transport. Il y a de l'extraction, il y a des grands projets autour de l'eau, mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont liés aux infrastructures de transport. Et notamment, je pensais au train. Et donc, pour moi, ce projet Route de la Soie, et ça c'est mon avis personnel, est un projet qui peut être très positif pour peu qu'on ne laisse pas les Chinois se débrouiller tout seuls. C'est-à-dire qu'on doit travailler en coopération avec eux. Et ces pays du Moyen-Orient, je trouve que c'est une bonne chose que ces pays du Moyen-Orient puissent profiter des infrastructures de transport que la Chine a prévu d'installer chez eux. Ne serait-ce que pour rapprocher ces États des autres, des pays de l'ASEAN, des pays d'Asie, mais aussi des pays de l'Europe, pour peu que des pays de l'Union européenne coopèrent avec la Chine sur ces projets Route de la Soie. Donc ça peut vraiment rapprocher les peuples. Ça peut vraiment être facteur de paix si c'est bien mené avec des gens intelligents qui mène une diplomatie, une diplomatie conciliante et avec du tact. Et ça, c'est la France pourrait être forte sur ce plan-là. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'objectif politique d'Emmanuel Macron. Son défi, et je conclurai là-dessus, c'est que la Méditerranée ne peut pas devenir le théâtre d'affrontements entre les grandes puissances. Et il parle de mécanismes de coopération politique. Donc il est bien engagé, même si sa ligne politique n'est pas encore complètement dessinée. Bien entendu, c'est difficile de le faire pour l'instant parce que il y a cette pandémie et puis qui a mis un peu les choses de travers et remis en question les économies des différents États. Mais aussi, il y a aussi toutes les crises politiques et militaires qui s'agitent dans cette partie du monde, qu'on se doit de régler et qui nécessitent d'abord d'être régulées et remises à plat avant qu'on puisse envisager de mettre en place une véritable coopération politique. Mais en tout cas, on est sur la voie, c'est bien ce qui a été annoncé. Donc pour résumer, la politique de l'État français en Méditerranée, c'est une coopération militaire, une coopération sur le plan culturel avec la mise en avant de la société civile, avec une coopération bien entendu aussi énergétique, et puis enfin un objectif politique qui est également un objectif de coopération. Donc Emmanuel Macron s'est bien situé dans la lignée qui correspond à la doxa qui doit se mettre en place au XXIe siècle, qui est celle d'une coopération. Une coopération entre les États, une coopération entre les régions, une coopération entre les individus et les États, je parlais de la société civile, et entre les individus eux-mêmes. Au-delà des différences et au-delà des frontières et des rives. Voilà pour cette émission sur la politique de la France en Union méditerranéenne. Je vous souhaite, chers auditeurs, de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Radio Galère 88.4 FM. Mm-hmm.